quel schéma d'intelligibilité pouvons-nous apporter pour essayer de comprendre, c'est-à-dire de donner un sens, de donner une signification aux événements concernés.
Notre travail est un travail de temps long et qui n'est pas celui de l'injonction de l'urgence.
La philosophie a sa légitimité d'abord parce que, au fond, nous sommes tous philosophes.
Aujourd'hui, Les Nouveaux Chemins vous emmènent sur scène, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, devant un public de près de 1000 personnes qui s'est réuni samedi 30 janvier dernier pour écouter 5 débats réunissant à chaque fois 3 philosophes venus réfléchir ensemble aux enjeux philosophiques de l'année écoulée. Ces débats ont été préparés grâce à l'équipe des Nouveaux Chemins, Antoine Ravon, Colomba Grossi, Lucie Tardier, Marianne Chassor, orchestrés par l'équipe de communication de France Culture, réalisés par Midia Portis-Guerra, avec à la prise de son Christophe Michou, Christophe Goudin, Benjamin Perru et Mathieu Leroy. Ces débats ont été organisés en partenariat avec Philosophie Magazine. Voici donc la diffusion dans leur intégralité de ces émissions débat. Ainsi demain, la philosophe Cynthia Fleury, l'historien et sociologue Pierre Rosanvallon et l'historien Olivier Dard réfléchiront aux nouvelles problématiques liées à la représentation entre abstention et montée de l'extrême droite aux dernières élections, en partant d'une question : la démocratie nous représente-t-elle encore ? Mercredi, les philosophes Sophie Guérard de la Tour, Alain Finkielkraut et Thierry Leger interrogeront les notions d'identité et de nationalité et se demanderont ce que signifie être français aujourd'hui. Jeudi, les philosophes Bruno Barnardi, Roselyne Lettron et Michael Fossel débattront autour d'une question qui a fait beaucoup couler d'encre l'an dernier : la sécurité est-elle la condition de la liberté ? Et vendredi, ce sera au tour de Régis Debray de vous proposer sa leçon de clôture autour de l'actualité de l'œuvre de Walter Benjamin. Mais le public s'impatiente. Il est temps de rejoindre le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour notre premier débat qui réunit les philosophes Magali Besson, Alain Renaud et Frédéric Worms autour d'une question cruciale qui a préoccupé tous les philosophes au cours de l'année 2015. Comment philosopher dans l'urgence ?
Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette 4e édition du Forum L'année vue par la philosophie, donc ça fait maintenant 4 ans qu'on se retrouve une fois par an, toute la journée du samedi ici, et je m'en réjouis, vous êtes toujours aussi nombreux malgré l'heure matinale, ce qui est très bon signe pour France Culture, pour la Sorbonne et pour la philosophie, puisque ça va être quand même le sujet de notre premier débat. Quand on s'est interrogé tous ensemble avec l'équipe des Nouveaux Chemins, et puis Sandrine Trainer, Vincent Lemaire, sur les sujets à aborder, les débats, les thèmes des débats qu'on allait proposer cette année au vu de l'année 2015, évidemment, celui qui s'était imposé en premier était celui du rôle de la philosophie face aux événements que nous avons vécus de janvier à novembre 2015, disons, et surtout savoir comment ce rôle peut être redéfini dans le temps qui dépasse les événements, à savoir comment concilier le temps de l'urgence qui fait qu'on demande aux philosophes de réagir, d'intervenir, de proposer une réflexion sur le vif, et le temps long précisément de cette réflexion qui est parfois incompatible avec l'exercice, disons, presque journalistique qu'on demande aux philosophes de jouer. Et c'est toutes ces questions-là qu'on a voulu essayer de déplier ensemble aujourd'hui, et pour répondre à ces questions, je suis entourée de 3 philosophes de très grande qualité que je remercie de nous avoir rejoints ce matin. À ma gauche, tout au bout, je vous présente Magali Besson, qui est professeure en philosophie politique à l'Université de Rennes 1, qui est l'auteur d'ouvrages consacrés à la question de la race et du racisme, et notamment tout récemment une anthologie avec Daniel Sabag intitulée « Race, racisme et discrimination » aux éditions Hermann, À sa droite se trouve Frédéric Worms, qui est professeur de philosophie à l'École normale supérieure, où il dirige le Centre international d'études de la philosophie française contemporaine, qui a beaucoup publié, plus récemment et en phase avec le thème qui nous occupe aujourd'hui, « La philosophie face à la violence », avec Marc Crépon, qu'on trouve aux éditions de l'Équateur. Et à ma gauche, en premier, se trouve Alain Renaud, professeur de philosophie politique et d'éthique à l'Université Paris-Sorbonne. Donc en un sens, nous sommes chez lui, c'est à moi de le remercier de nous accueillir. Qui est lui l'auteur d'un ouvrage intitulé « L'injustifiable et l'extrême, manifeste pour une philosophie appliquée » qui a été publié aux éditions du Pommier cette année, en 2015 également. Donc en plus, ce sont trois actualités éditoriales qui viennent redoubler les actualités que nous allons commenter. J'aimerais, Magali Besson, commencer avec vous en vous posant cette question qu'on a dû beaucoup vous poser au moment où à la fois les attentats contre Charlie Hebdo, contre l'hypercacher de janvier, et ensuite les attentats du 13 novembre à Paris, donc le Bataclan notamment et tout le quartier du 11e arrondissement, ont pu susciter comme réaction. Comment est-ce que vous considérez votre rôle de philosophe dans ces moments-là? Est-ce que le danger d'une question qu'on pose frontalement au philosophe, une demande de réaction à ce moment-là, n'est pas de le confondre avec l'exercice même qui revient aux journalistes plus qu'aux philosophes?
Oui, merci. Merci pour l'invitation. Bonjour. Alors, en effet, c'est une question qu'on nous a beaucoup posée. Et je voudrais revenir avant tout sur la formulation de cette table ronde aujourd'hui. La première fois que j'en ai entendu parler, la question était « peut-on, doit-on philosopher dans l'urgence ?» Et c'est devenu « comment philosopher dans l'urgence » C'est-à-dire qu'au fond, un peu comme si la question de la légitimité de cette pensée philosophique qui devrait se faire sous l'injonction d'une temporalité particulière était devenue la question positiviste. Il faut le faire. Maintenant, la question est celle de la diffusion, de la manière de bien le faire. Donc, on peut dire qu'évidemment, la question de la légitimité est contenue dans celle de la manière de le faire. Mais je pense quand même qu'il faut reposer, enfin, en tout cas, la question, moi, qui m'intéresse, c'est celle, justement, du peut-on ou du doit-on. Et lorsque ces injonctions nous ont été faites, à nous, philosophes, et philosophes au pluriel, hein, je ne sais pas bien si c'est la philosophie qui doit penser dans l'urgence, ou plutôt les différents philosophes que nous sommes, qui doivent essayer d'avoir un discours sur des événements. Lorsque cette question nous a été posée, il m'a semblé qu'elle relevait d'abord d'un malentendu. Comme si la philosophie était par définition, ou les philosophes étaient par définition des pourvoyeurs de sens, dont la fonction était d'intégrer des éléments, des événements, de l'actualité complexe, disparate, étonnant, dans un système qui fournirait un sens global. Mais comme si ce système préexistait à ces événements, et le philosophe ou les philosophes n'auraient plus qu'à appliquer ces systèmes théoriques, ces concepts, ces argumentations à un réel qui se donne comme tel, et qui du coup n'aurait plus comme vocation qu'à être pris dans un système préétabli. Donc ça, c'est le premier malentendu, comme si la philosophie s'exerçait d'abord indépendamment d'un réel, indépendamment d'un contexte, d'une histoire qui est la nôtre, et puis l'histoire, disons, comment dire, comme s'il y avait un processus de cette histoire dans lequel qui serait pris dans ces concepts. Le philosophe étant bien incapable le plus souvent d'avoir un système parfaitement intégré dans lequel le réel n'aurait plus qu'à venir se faufiler, la fonction qui lui était du coup dévolue était par défaut une sorte de fonction de supplément d'âme. Le philosophe alors n'aurait plus qu'à apporter une sorte d'apaisement devant l'inquiétude ou le chaos suscité par des événements inattendus. Et c'est ce supplément d'âme qui, revient à une espèce de fonction rhétorique du philosophe. Or, précisément, il me semble que la philosophie a pour fonction, non pas d'abord de fournir du sens, mais d'abord d'expliquer. C'est-à-dire qu'au fond, la philosophie est quand même une science, et pas simplement un discours supplémentaire qui s'ajouterait sur du donné ou qui se penserait indépendamment de ce donné. Et s'il s'agit d'expliquer, on s'est retrouvé tout récemment face à une injonction contradictoire qui, nous, les scientifiques, les intellectuels, les philosophes, qui nous disait que si nous expliquions, nous excusions par là même. Que devions-nous alors faire? Est-ce qu'il s'agissait de revendiquer la capacité à expliquer le réel ou devions-nous nous contenter de ce supplément d'âme qu'on nous demandait de saupoudrer comme ça sur une actualité terrifiante? Il me semble que le philosophe doit résister à une fonction au rabais et doit vraiment revendiquer l'idée qu'il s'agit d'expliquer. Mais si l'on cherche à expliquer, alors il faut un temps long, c'est-à-dire que la philosophie ne peut pas se contenter d'une réaction à chaud. C'est-à-dire, le philosophe n'est pas là pour émettre une sorte d'émotion brûlante, n'est pas là simplement pour réagir à de l'instantané. Et l'urgence, l'actualité, l'instantané sont des concepts qu'il va, je pense qu'on va peut-être essayer de distinguer un peu. Il me semble que nous devons dire que notre travail est un travail de temps long. Il y a d'abord le temps de la construction de l'objet, puis il y a le temps ensuite de la production de normes de pensée sur cet objet, et ça prend un temps qui n'est pas celui de l'injonction de l'urgence.
Voilà, une chose est de faire le constat de la nécessité du temps long pour construire la réflexion philosophique, une autre est de savoir comment réagir quand l'urgence nous impose une réaction. Et cette question-là, Alain Renaud, vous vous l'êtes posée directement, et vous en faites part de votre livre « L'injustifiable et l'extrême » qui est sorti l'an dernier, où suite, là cette fois-ci c'était suite à des expériences personnelles que vous avez vécues en Haïti et au Cameroun. Ces expériences, qu'on pourra sans doute qualifier d'urgence, ont été telles qu'elles ont radicalement changé la conception que vous vous faites de la philosophie, que vous faisiez de la philosophie.
Oui, de même que les expériences ou les expérimentations que nous faisons tous ensemble ici depuis 18 mois, à la faveur de l'actualité du terrorisme global et de son application à notre propre collectivité. Donc ceci renforce, si vous voulez, les approches que j'avais pu effectivement être conduit à faire en Haïti ou au Cameroun ou ailleurs. Bon, voilà. Je ne suis pas entièrement d'accord avec le rôle que vous confiez aux philosophes dans ce que vous venez de présenter. Pour moi, il y a trois types de discours qui sont tenus dans l'urgence ou qui peuvent être tenus dans l'urgence. Il y a le discours du journalisme qui est tout à fait respectable mais qui n'est pas le nôtre, mais qui consiste à rapporter, informer, analyser dans l'immédiat avec comme objectif l'information. Il y a un discours qui s'effectue sur un temps un peu plus long mais qui peut être très rapide aussi, qui est le discours des sciences sociales, qui consiste à rapporter, à collecter et à rapporter un certain nombre de données dont la fonction est explicative. Ça n'est pas nous qui expliquons. C'est-à-dire quand vous avez les difficultés de gestion qui sont intervenues en Haïti après le tremblement de terre de 2010 et qui ont abouti à un échec de l'humanitaire, il faut expliquer cet échec de l'humanitaire. Et là, ça suppose une approche qui mobilise plus volontiers les sciences sociales, notamment la sociologie, l'anthropologie, l'économie politique, etc. Notre rôle n'est pas foncièrement explicatif. En revanche, il y a une troisième contribution qui est envisageable, qui est celle de la compréhension. C'est-à-dire quel schéma d'intelligibilité pouvons-nous apporter pour essayer de comprendre, c'est-à-dire de donner un sens, de donner une signification aux événements concernés, que ce soit l'après-séisme comme événement naturel, mais médiatisé par les réactions adaptées ou inadaptées de la communauté internationale en Haïti, que ce soit ce qui se passe ici ou ailleurs sur le mode du terrorisme global. Donc dans les trois grandes catégories d'événements qui s'accomplissent dans l'urgence, c'est-à-dire les événements qui consistent en des formes de violence extrême ou dans des formes de pauvreté extrême également, ou dans d'autres formes encore qui sont celles du risque extrême, que ce soit le risque lié au terrorisme ou que ce soit le risque extrême lié aux conséquences du changement climatique, il y a place pour l'information dans l'immédiat, dans l'instantané, il y a place pour l'explication dans une temporalité qui doit être courte, qui a besoin d'être courte, parce que pour agir, il faut pouvoir expliquer. Et il y a place aussi pour une autre intervention qui doit aussi s'inscrire maintenant, je crois, dans le temps extrêmement court, qui est celle de la compréhension et de la production d'intelligibilité.
Ça, c'est la philosophie.
Et ça, c'est la philosophie qui doit quitter pour ce faire sa posture habituelle celle du philosophe, comme homme de principe se plaçant extrêmement loin de la réalité concrète, l'idée platonicienne de justice, les principes de justice rawlsien, tout ça étant très loin de la particularité des situations extrêmes, il y a place pour un travail de compréhension et d'intelligibilité s'effectuant aussi sur le temps le plus court possible, parce que cette intelligibilité, cette production d'intelligibilité, cette production de compréhension, dans tous les cas que j'ai mentionnés et bien d'autres, est également nécessaire pour s'orienter dans l'action, et éventuellement pour orienter ou pour essayer d'esquisser des pistes pour remédier aux situations. Pour cela, il faut d'abord les comprendre pour agir.
Et ça, vous le dites d'autant plus volontiers que vous avez passé des années de votre vie à travailler sur Kant et Rawls avant d'en venir à ce constat-là.
Oui, je pense avoir travaillé trop longtemps sur les principes, c'est une formation indispensable, mais c'est surtout une formation pédagogique que nous avons. Cette recherche sur les principes de justice étant à peu près terminée, je veux dire, ayant été très loin dans ce qu'étaient ses objectifs, je pense qu'aujourd'hui, il faut la mettre au service de l'action et de la compréhension des situations. Si vous voulez, quand nous sommes allés à trois d'entre nous, d'entre mon équipe, en Haïti en 2013, fin 2013, il y avait encore des camps, il y avait encore des situations invraisemblables, et nous avions été invités pour faire des cours à l'École normale supérieure de Port-au-Prince sur les théories de la justice aux futurs professeurs de philosophie d'Haïti. Honnêtement, en deux jours, nous avions compris que les principes de justice, aussi intéressants, aussi passionnants fussent-ils, ne nous servaient à rien pour comprendre les situations, parce que la vraie question qui se posait n'était pas tellement une question de justice ou de principe de justice, c'était une question de savoir quoi prioriser, qu'est-ce qu'il faut rendre prioritaire pour intervenir en situation, quelles sont les priorités les plus justes, où on retrouvait la question du juste, mais indexée sur la recherche de priorités dans un contexte comme celui de Haïti ou dans un contexte comme celui que nous connaissons ici.
Frédéric Worms, est-ce que vous partagez ce constat cinglant quand même pour une certaine philosophie de l'inutilité d'une réflexion à l'infini sur les principes de justice face à certaines situations d'urgence ?
Inutilité parce qu'à mon avis, elle est terminée.
Certes.
Et qu'on peut s'en servir.
Frédéric Worms.
Alors, oui et non. C'est peut-être la réponse...
Vous êtes au milieu en même temps, donc vous pouvez donner raison à tout le monde.
Non, oui et non, parce qu'il me semble que c'est vrai que... dans cette confrontation des principes et des situations, il y a différentes temporalités. Il y a effectivement cette situation de gravité, de l'urgence installée en quelque sorte, continuée après une grande crise et dans la pauvreté maintenue, et puis et le philosophe qui évidemment était branlé par elle. Et puis, mais même dans cette situation, je pense qu'on retrouve la donnée première, qui est celle de l'événement grave. Et je pense que devant l'événement grave, en fait, quand même, la philosophie a sa légitimité, d'abord parce que, au fond, nous sommes tous philosophes. Je veux dire, c'est pas un privilège au départ. Je pense que le propre des événements graves, qui peuvent surgir sous l'action d'autrui ou même simplement dans la vie, hein, un deuil ou une catastrophe intime, et d'ailleurs aussi les grands événements joyeux, je pense toujours qu'il faut remettre aussi les choses dans l'autre sens aussi. En fait, devant ces événements graves, surtout les événements graves, et c'est pourquoi le philosophe ne doit pas non plus commenter toute l'actualité, être dans le bavardage sur tout et n'importe quoi. Dans les événements graves, nous sommes tous philosophes parce qu'ils suscitent des questions de principe. Et ces questions de principe, quand même, elles sont suscitées, mais pas d'abord comme des questions. Moi, je pense qu'il faut revenir au fait que le langage fait partie de l'événement pour l'homme, et ça se traduit dans moi ce que je décrirais comme des exclamations, avant d'être des questions. C'est-à-dire, c'est scandaleux, ou bien c'est merveilleux, c'est injuste, ou bien au contraire, c'est héroïque. Parce qu'on voit aussi des actes de justice qui répondent à des situations d'injustice ou des actes de transgression et de meurtre. Et ces exclamations, pour moi, c'est le début de la philosophie. Et c'est le début de la philosophie dans l'expérience. Et donc, tout le monde est un peu philosophe parce que ça fait partie de l'être humain de réagir par des exclamations de ce genre. Et ces exclamations de ce genre, d'une certaine façon, elles sont donc déjà pleinement de la philosophie. Et surtout, il faut bien comprendre qu'elles font partie de l'événement. L'événement pour les êtres humains n'est pas seulement une sorte de chose brute qui nous tombe du ciel, mais c'est aussi notre réaction qui va d'ailleurs façonner l'événement lui-même, le prolonger. C'est-à-dire si on réagit comme ci ou comme ça, la suite de l'histoire, en quelque sorte, va être différente. Alors si nous sommes tous philosophes, quelle est la vocation des philosophes, entre guillemets, ceux qui, pour différentes raisons, au fond, on fait de cette dimension de la vie humaine quelque chose comme un trait particulier de leur vie,
et leur
métier. Je pense que, comme ça a été dit, et par vous deux, finalement, il y a une réflexion préalable. Cette réflexion préalable est ébranlée aussi par l'événement, mais elle permet quand même de développer l'exclamation, c'est-à-dire de dire, si on dit c'est injuste, pourquoi, à quelles conditions, comment, et c'est extrêmement important. Mais donc c'est pour ça qu'on est requis, et je trouve à la fois très très, on doit parfois se sentir illégitime parce qu'on n'est pas plus légitime que n'importe qui, et en même temps on apporte finalement un éclairage préalable, et c'est une demande très importante. Il y a un autre élément qui est évidemment important, c'est un élément de contexte, je pense. C'est-à-dire que deux éléments de contexte, en fait. Il y a un premier élément de contexte qui est, je dirais, national et historique. C'est-à-dire, évidemment, on est dans un pays, en France, où il y a une grande tradition d'intervention du philosophe. Parce que, précisément, je pense que ça s'est construit aussi dans une certaine concurrence des discours, j'y reviendrai dans un instant, mais donc il y a cette tradition. On fait appel au philosophe qui répond à des situations en les nommant, en les décrivant, par exemple, comme injustes. Ça date pas seulement de l'existentialisme, de la Seconde Guerre mondiale, ni même de l'affaire Dreyfus, mais même de la Révolution française, au fond, et de les philosophes. Donc dans une concurrence des discours, avec des discours explicatif ou théologique, par exemple, donc il y a, par la raison humaine, on peut dire c'est injuste et on peut le prouver. Ou bien on peut dire au contraire ça c'est juste et on essaye de le prouver. Donc c'est l'argumentation aussi. Et donc il y a en France, ça s'est installé comme un rôle public, de telle sorte qu'on dit quelqu'un il est philosophe et il a le droit de parler de tout après. Bon, il y a des dangers à ça hein, aussi. Mais c'est vrai que dans d'autres pays, c'est pas du tout le cas. Dans d'autres pays, il se trouve que je parlais un jour avec un journaliste venu d'Irlande, comme ça, hein, dans un café, et elle me disait qu'en Irlande, celui qui commente l'événement, c'est le poète. C'est pas le philosophe. Donc il y a aussi des traditions historiques. Et en France, l'étiquette philosophe est quand même surdéterminée. Et il y a un dernier point que je voudrais dire en relation avec ce que disait Alain Renaud il y a un instant. Dans les discours qui surgissent dans l'événement, l'homme est un être parlant, effectivement, pour qui l'événement suscite du discours, mais il y a une concurrence des discours. Et dans les discours qu'Alain Renaud a cités, il y a aussi un discours que vous n'avez pas cité, qui est le discours politique, et même dans les variantes du discours politique, c'est le discours idéologique. Et là, il y a aussi un rôle de la philosophie, c'est-à-dire d'intervenir dans cette concurrence des discours, de dire « attention, l'actualité ne vous arrive pas seulement comme un fait brut, elle est déjà filtrée par des discours ». Et on peut aussi avoir ce rôle de mise à distance des discours, de rôle critique. Je ne sais pas si je la décrirais comme un rôle scientifique, mais en tout cas comme un moment à la fois de discours immédiat, c'est-à-dire dans les principes quand même, je pense. Ça suscite la question de principe. Après, ça peut les ébranler, ça doit les ébranler, mais quand même, c'est de ça qu'il s'agit. Et vous avez raison de dire c'est juste, c'est injuste, et d'entrer dans la discussion. Et puis, quand même, il y a une concurrence des discours. Il y a des discours qui vont aggraver l'événement. L'idéologie va faire ça, dans les uns sens ou dans l'autre d'ailleurs. Et puis, il y a des discours qui vont permettre de répondre à l'événement, voire de résister à ce qui, dans l'événement, nous ébranle. Je ne dis pas que la philosophie a ce privilège, parce qu'au fond, là aussi, il faut distinguer les philosophes. Et il y a des conflits entre philosophes, et puis des philosophes qui peuvent aggraver l'événement, enfin, qui peuvent, sans le savoir, parer de ce titre de philosophe qui, en France surtout, est surdéterminé, peuvent ne pas être philosophes dans toutes les parties de leur discours. Après, voilà, il faut faire attention. Mais je crois donc qu'il y a une grande responsabilité, mais qui est d'abord existentielle et qui fait qu'on donne, on assume la partie verbale de l'événement et la réaction spontanée de chacun devant ce qui est urgent et donc grave.
Voilà, ce qui ressort de vos trois interventions, c'est aussi quand même la difficulté ou l'impossibilité peut-être de s'accorder sur ce qu'est le rôle du philosophe ou de la philosophe. Et c'est ça qui est quand même passionnant, de voir que vous avez trois manières différentes, sans doute, de concevoir votre métier. Est-ce une science au même titre que les autres? Est-ce, comme disait Alain Renaud, ce qui doit nous permettre de comprendre plus que d'expliquer ou d'informer? Ou est-ce que finalement nous serions tous un peu philosophes, comme le disait Frédéric Worms? Mais cette difficulté à définir ce qu'est la philosophie, qui n'est pas sans intérêt même d'un point de vue philosophique, à cette difficulté, il faut aussi y rajouter, Magali Besson, celle de définir l'urgence, puisque finalement, l'urgence face à laquelle nous nous trouvons en tant que philosophes, si nous sommes philosophes à un moment donné, vient souvent se redoubler l'urgence dans laquelle nous sommes par rapport à un travail qui, lui, est proprement philosophique, proprement intellectuel et qui est tout aussi urgent pour l'individu qu'est le philosophe.
Alors, je voudrais, avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur certaines choses qui ont été dites. Je suis absolument d'accord avec l'idée que le langage fait partie de l'événement et qu'il est impossible de distinguer un donné de l'interprétation immédiate ou réflexive et ces trois éléments, la chose qui nous arrive, l'interprétation de l'ébranlement, comme vous le disiez, et la réflexion font partie de l'événement et le construisent. Et à mon avis, il y a une dialectique entre ces différents éléments, la proposition théorique construisant l'événement d'une autre manière que l'événement lui-même modifie dans la construction théorique. Et je crois que la philosophie, c'est ce processus précisément d'avancée, de modification, de transformation d'un réel qui n'existe qu'à partir du moment où on a commencé à le penser et à l'intégrer. Et de ce point de vue-là, dire que l'explication est au fond le dévolu ou l'objet des sciences sociales, il me semble que c'est oublier que les sciences sociales elles-mêmes sont des sciences sociales avec des interprétations et des discours en concurrence des sciences sociales. Il y a des grilles d'analyse en sociologie avec des gens qui n'interprètent absolument pas et donc ne rendent pas saillantes les mêmes choses dans ce qui nous arrive, dans nos expériences, de la même manière. Donc, et je crois que ce qui, à l'heure actuelle, je suis d'accord aussi avec l'idée que la philosophie a changé, s'est modifiée. C'est-à-dire que je pense en effet qu'on ne peut plus, alors là je suis entièrement d'accord avec Alain Renaud, il est difficile de faire de la philosophie comme s'il était possible de se mettre dans son poêle, ou comme Descartes, ou de se mettre à part, de construire ses principes d'abord et indépendamment de l'expérience que l'on vit. Mais il me semble que justement, c'est dans le dialogue constant entre les sciences sociales et la philosophie que la philosophie a changé. Les principes eux-mêmes sont eux-mêmes pris dans leur contexte. Et Rawls est un philosophe des États-Unis qui pense les États-Unis dans les années 50 et 60. Et les principes de justice qu'il propose ne sont pas des principes anhistoriques. Ils sont pris dans leur historicité et ils existent pour penser une société particulière. Et c'est peut-être pour ça, en effet, qu'aujourd'hui, les principes ont modifié notre compréhension du réel. Le réel lui-même a modifié les principes. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut plus s'en remettre, en effet, à une théorie de la justice distributive.
Une manière de dire que la philosophie a son histoire.
Exactement. La philosophie aussi a son histoire, qui est la nôtre, qui n'est pas simplement une histoire détachée de nos expériences de penseurs engagés, pris dans des contextes que nous essayons d'affronter tant bien que mal. Mais cette humilité, c'est-à-dire cette capacité, je pense qu'il faut qu'on réalise que nous pouvons faire quelque chose. C'est notre responsabilité d'essayer de penser ce réel. Et cette responsabilité, elle s'accompagne d'humilité. C'est-à-dire que peut-être que nous ne pouvons que poser des questions sans apporter, justement, ce schéma d'intelligibilité globale qu'on nous demande, hein, et à la recherche duquel on est sans arrêt. Mais peut-être que notre fonction, c'est une fonction aporétique. Alors, ok, là, on en revient à Socrate, et peut-être que c'est une philosophie dépassée, et peut-être qu'il ne s'agit...
Il y a une moue très importante à ma gauche sur le visage d'Alain Renaud, la fonction aporétique de la philosophie. Vous voulez réagir ?
Écoutez, j'ai essayé d'embrayer un peu de façon plus directe, parce que on ne peut pas tenir un discours général sur le rapport du philosophe à l'urgence. Il faut entrer dans le vif du sujet. D'abord, l'urgence, c'est... des situations où qu'elles se produisent, où ce qui est en jeu, c'est un, la survie, la simple survie, deux, une vie éventuellement qui n'est pas, pour favoriser la survie, qui ne doit pas non plus être traitée de façon indigne, indécente, inhumaine, etc. Et trois, éventuellement, avec le temps qui s'écoule un peu, la recherche d'une qualité de vie qui peut être aménagée, y compris dans ces situations, à travers des choix plus respectueux d'éventuelles qualités de vie que d'autres. Par exemple, dans le logement, le relogement, etc., des personnes victimes d'un cataclysme. Donc, la L'urgence, c'est ça. Et si je puis dire, l'urgence, c'est urgence. C'est-à-dire, si vous répondez à l'urgence par l'aporétisme, déjà, on ne demande pas grand-chose aux philosophes, il faut dire la réalité. On n'est pas consulté tous les deux jours.
En ce moment, dès qu'il y a un événement important, pour reprendre l'expression journalistique, on fait appel aux philosophes. S'ils étaient détenteurs d'une réponse ou d'une capacité de réflexion supérieure aux autres intellectuels ou individus citoyens.
Oui, enfin, si vous le trouvez vraiment, vous avez sûrement raison, mais honnêtement, dans le vécu des philosophes, dans leur existence professionnelle, l'appel à eux est quelque chose de relativement rare. Et à mon avis, ils l'ont bien cherché.
C'est-à-dire ?
Ils l'ont bien cherché, parce que quand on tient pendant des millénaires un discours de surplomb par rapport aux réalités, en disant qu'il veut sortir de la caverne pour aller contempler l'idée éternelle, éternitaire, du juste ou du bien, c'est évidemment dans la caverne que les choses se passent, et notamment les situations urgentes et extrêmes. Donc ce que je propose, c'est que le philosophe s'occupe de ce qui se passe dans la caverne et pas dehors. À mon avis, l'investissement des philosophes, jusque y compris dans les années 70, 80, 90, sur les principes de justice, répète d'une certaine manière le geste platonicien, en restant à distance de l'urgence et des situations extrêmes que sont les situations urgentes. Maintenant, je vais m'expliquer sur un exemple. Haïti, 2010, 500 000 morts en 20 secondes, 500 000, je simplifie, blessés, graves, et un nombre absolument considérable d'habitations déjà précaires, détruites. Arrive l'humanitaire de tous les pays du monde avec la nécessité de concerter, etc. Je ne peux pas entrer dans le détail de cette situation, mais elle supposerait un éclairage de ce qu'il faut faire d'abord, tout de suite, plutôt qu'un peu plus tard, enfin, une espèce d'organisation de l'urgence et de priorisation, de dire qu'est-ce qu'il est juste de rendre prioritaire. Alors, à l'intérieur de cet exemple, je prends un exemple. Parler de cette question dans une invitation que je lui avais lancée dans mon séminaire, ici, enfin dans une partie de la Sorbonne, à Ronnie Broman. Vous voyez qui est Ronnie Broman, médecin sans frontières, médecin vraiment, et présent sur le terrain de Haïti dès 2010, dès les semaines qui ont suivi. Ce que raconte Broman est absolument pathétique, parce que, comme médecin, et à l'intérieur de l'intervention massive des médecins qui a été réussi en un sens par sa massivité, ce qu'ils ont décidé sans avoir pu se concerter et réfléchir, c'est de privilégier, de rendre prioritaire les interventions médicales qui prennent la forme des amputations. Pourquoi ils ont privilégié massivement les amputations ? Parce qu'une amputation, c'est rapide, c'est extrêmement rapide, et en étant extrêmement rapide, ça permet de se soucier d'autres qu'il faut aussi amputer ou, en tout cas, qu'il faut traiter. Donc la réponse aux problèmes médicaux posés, problèmes de santé et de blessures, si vous voulez, a été immédiatement le choix de l'amputation comme solution la plus simple. Évidemment, ça fait problème, parce que, rétrospectivement, sans doute une foule de gens ont subi des amputations pour l'ensemble de leur vie qui n'étaient pas rigoureusement indispensables. Peut-être y avait-il d'autres choses à faire, mais on n'a pas pris le temps, on n'a pas ouvert des espaces de discussion et de concertation qui auraient permis d'organiser l'urgence.
Et ça aurait été le rôle du philosophe d'ouvrir ces espaces de concertation ?
Le rôle du philosophe, le philosophe n'était pas présent. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse en
Précisément, précisément.
Le philosophe peut réfléchir. Alors, ça reste de son histoire à la philosophie. Il peut réfléchir après coup, mais en réduisant l'après coup, en n'intervenant pas 6 mois après ou 6 ans après, etc. Mais il peut réfléchir à des conditions qui permettent de dire ce qui est, quels sont les critères, si vous voulez, de ce qu'il faut prioriser dans l'urgence. Et on peut produire des critères. Par exemple, favoriser évidemment la survie, mais en intégrant les exigences d'une vie décente ou d'une vie digne, et en pondérant les exigences de l'une par les considérations de l'autre. Voilà, il peut produire des concepts de ce genre et éclairer les questions d'urgence, éclairer les questions de priorité, les désigner.
Juste avant de passer la parole à Frédéric Worms, je rappelle que même pour Platon lui-même, quand le philosophe sort de la caverne pour aller contempler les astres, comme vous disiez Alain Renaud, il en appelle à une redescente dans la caverne ensuite, donc il ne s'agit pas de rester dans la tour d'ivoire.
Mais au retour, il est un peu tué, si vous voulez.
Alors, ça c'est tout le débat. Frédéric Worms.
Oui, moi je trouve que la question de l'urgence est vraiment très significative des limites et de la nécessité de la philosophie, parce que moi je suis entièrement... absolument d'accord que ce qui définit l'urgence, c'est l'urgence vitale. C'est l'urgence vitale et mortelle, et d'ailleurs les deux mots sont inséparables, ont le même sens dans ce cas-là, justement. le vital et le mortel. Et c'est évidemment ce qui met, la vie avant la philosophie. Primum vivere, deinde philosophari, d'abord vivre, ensuite philosopher. Et cette question de l'urgence, est ce qui légitime le politique, le secours, le soin, l'institution, etc. Seulement, on voit très bien que la philosophie et l'ensemble des sciences sociales et des discours, et aussi du politique, doit avoir aussi préparer l'urgence, penser l'urgence, pour préparer cette priorisation, ce que les médecins appellent aussi le tri, c'est très important. Le médecin d'urgence arrive, ça c'est un cas extrêmement grave, comme ils disent, il faut les envoyer dans les étages, et les autres, il faut les envoyer dans l'hélicoptère, par le SAMU, etc. J'évoque ce cas parce que je pense toujours, quand on parle d'urgence, à Pierre Valette, qui dirige le SAMU du Pas-de-Calais et qui a fait une thèse de philosophie pour comprendre sa pratique. Et pour comprendre un point très précis dans sa pratique, qui rejoint une des choses que disait Alain Renaud très justement aussi, il me semble, il y a un instant, à savoir que pour lui, dans la pratique, il y a jamais seulement l'urgence massive et qu'on peut traiter par un protocole anonyme, il faut un acte médical justement, donc une responsabilité de quelqu'un face à l'urgence, donc on voit tout de suite qu'il y a des discours et d'ailleurs qui ne peut pas agir seulement au nom de l'urgence, et Ronnie Broman l'a toujours montré, il y a eu aussi au nom de l'humanitaire un chantage à l'urgence, un chantage à la catastrophe, donc tout de suite l'urgence est aussi un mot à travailler, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis il y a un autre point très important, c'est qu'il explique qu'il tient infiniment jusque dans la situation d'urgence extrême vraiment, hein, à avoir aussi un autre rapport qu'un rapport urgent au malade. Et il explique, par exemple, c'est très frappant, et il raconte dans son livre, hein, sur l'éthique de l'urgence, comment, arrivant parfois en hélicoptère sur une scène d'accident dans une nuit pluvieuse sur une autoroute du Pas-de-Calais, en remettant le blessé extrêmement grave dans l'ambulance ou dans l'hélicoptère, il fermait les rideaux, ne serait-ce qu'une seconde, pour dire au patient « je suis là, ça va aller ». S'il n'y a pas ce moment, qui est un autre type d'urgence, qui est l'urgence, je dirais, relationnelle, de prise en charge non seulement de la blessure vitale, mais d'une autre dimension vitale qui est la relation individuelle dans le soin lui-même, eh bien, on faillit aussi à une autre urgence. Donc il y a des dimensions de l'urgence. Le risque, c'est d'être écrasé par cette nécessité vitale, de l'urgence vitale comme telle, vitale au sens vraiment organique, hein, c'est quand même la condition. Et dans l'état d'urgence qu'on vit aujourd'hui, il faut le rappeler, hein, on ne peut pas parler de l'urgence aujourd'hui seulement en termes d'événements, il y a un état d'urgence dans lequel nous sommes installés constitutionnellement.
Aujourd'hui, nous enregistrons cette discussion, sachez qu'il va y avoir des manifestations pour protester contre la prolongation de l'état d'urgence de 3 mois.
La question est la même, c'est-à-dire il y a une urgence vitale au sens politique pour une certaine communauté politique qui doit en effet prendre des mesures d'urgence, mais on voit bien qu'elles ont été préparées constitutionnellement, juridiquement et in fine aussi en un sens philosophiquement par l'idée que cette urgence est déclarée dans certaines conditions, à des limites, doit être examinée, doit être provisoire, doit être suspendue à un certain moment, et donc que l'urgence, comme tout le reste, mais d'une manière absolument critique, est à la fois, fait partie de l'événement dans son extrémité parfois, et du discours dans sa distance. Et c'est vrai que si on n'a pas cette distance, alors dans l'état d'urgence, on n'aura que l'urgence et on n'aura plus d'état en réalité. Donc on voit bien que dans tout, du vital immédiat au politique, hein, de la santé individuelle jusqu'au salut du peuple, il y a cette distance, et que l'urgence est vraiment un point absolument critique de cette tension possible entre l'événement qui a sa priorité et la réflexion qui a sa priorité aussi. Et on le voit bien, donc il faut vraiment répondre à l'urgence et ne pas se laisser non plus fasciner par l'urgence, parce que heureusement, le propre de l'urgence, c'est qu'à un moment, enfin, espérons-le, elle s'arrête et qu'il y a une sorte de pulsation de la vie humaine, mais que je crois qu'aujourd'hui, nous vivons en effet une expérience de l'urgence, des urgences, de divers ordres dont on pouvait penser parfois qu'on était sorti, mais dont on nous rappelle que c'est la condition de la vie humaine, et c'est une orientation aussi, parce qu'à un moment on parlait de fin de l'histoire, bon, voilà, les urgences nous rappellent que l'histoire continue.
Voilà, toute la question étant de savoir, le paradoxe vient du fait que pour définir l'urgence, il faut le temps long de la définition, et savoir si l'urgence est objective, s'impose à nous, ou si nous pouvons la nommer comme telle avec la distance nécessaire. Magali Besson, puis Alain Renaud qui voulait rebondir sur ce que disait Frédéric.
Oui, il me semble que ce qui est important, c'est peut-être de réaliser que le philosophe les philosophes ne sont pas les médecins. C'est-à-dire que le philosophe a sans doute, en effet, son rôle à jouer, un rôle propre, un rôle important. Mais par ailleurs, ça n'est pas celui qui ampute, ça n'est pas celui qui se trouve dans l'ambulance. Le philosophe n'est pas non plus celui qui reloge les gens. Son intervention est préalable et importante pour pouvoir, en effet, prioriser, enfin, donner des priorités. Mais ces priorités reposent sur un critère ou des critères. Est-ce qu'on va donner la priorité à l'égalité, à la décence, à la dignité, au respect, à la qualité de vie? Et c'est là que le philosophe intervient, non seulement pour essayer...
Ou la philosophe,
oui. Ça, c'est l'histoire de la philosophie. Essayer de déterminer ce que pourrait être le respect, ce que pourrait être l'égalité dans les conditions de vie, dans l'accès à certaines ressources. Et il me semble que le rôle des philosophes est d'abord ce rôle d'objectivation ou de définition de certains critères qui vont être ensuite les critères dont, dans l'urgence, certains autres acteurs vont pouvoir s'emparer pour réagir, agir dans la rapidité de cette action. Par ailleurs, il me semble que je voudrais revenir sur une figure qu'on a peut-être un peu oubliée, qui est la figure de Jean Cavaillès, qui est un philosophe, qui a été interné en 1942 dans un camp à Montpellier en raison de ses activités de résistance, et qui, dans ce camp, en urgence d'une certaine manière, dans l'urgence vitale dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le risque sur sa propre vie, a écrit une logique et théorie de la science. C'est-à-dire que l'urgence à philosopher qu'il éprouvait lui-même était une urgence propre, une urgence spécifique. Il fallait écrire ce livre, et il fallait l'écrire maintenant, dans un camp, avec le peu de moyens dont il disposait, les livres que ses amis pouvaient lui procurer. Mais ça n'était pas nécessairement une injonction extérieure d'un politique ou d'un champ médiatique qui lui aurait demandé d'intervenir, de prendre la parole sur une situation à propos de laquelle il agissait en tant que citoyen, c'est-à-dire en tant qu'homme qui s'est engagé dans un certain type d'action de résistance, au point qu'il a fini par être fusillé en 1944. Donc là, le philosophe et le résistant c'est bien le même individu, c'est bien Jean Cavaillès.
C'est deux urgences différentes.
Mais ce sont deux urgences différentes. Voilà, je voulais juste finir avec, enfin,
dire ça. Parce qu'il y a l'urgence politique.
Frédéric Worms.
L'urgence politique de résister, l'urgence vitale de la condamnation à mort et l'urgence intellectuelle.
Et l'urgence intellectuelle, l'urgence de la pensée. Oui.
Alain Renaud.
Oui, je suis toujours évidemment pour qu'on salue la mémoire des grands philosophes du passé. Mais je ne voudrais pas que la philosophie consista à raconter son histoire et à célébrer ses morts. Nous sommes placés face à des situations pour lesquelles il nous faut nous-mêmes inventer des modes de pensée et des modes de compréhension. Et comme ces situations sont nouvelles et dissemblables de celles du passé, je pense qu'il faut que nous les inventions nous-mêmes. Deuxième remarque, c'est pas le problème de... l'urgence et de la non-urgence qui nous interpelle et nous fait difficulté. Le non-urgent, en l'occurrence, importe peu. C'est le problème de savoir comment classer dans l'urgence tout ce qui est urgent. Car le problème des situations comme celles que nous vivons ou comme d'autres, c'est que tout y est urgent. Et à bon droit, on peut se demander dans quel ordre aborder les choses de telle façon qu'il faut structurer les interventions, il faut structurer les actions, savoir par quoi on commence, par qui on commence, les enfants, les femmes, éventuellement, parce que c'est les plus vulnérables, éventuellement les personnes les plus compétentes, les plus formées, les plus expertes, parce que dans un pays, c'est elles qui incarneront l'avenir immédiat, la capacité de s'affronter à la situation et d'y travailler. Vous voyez, c'est des questions comme ça. Donc dans quel ordre mettre les choses? Troisième remarque, je reprends le cas de Haïti, mais je change d'exemple. Après le séisme, les problèmes qui se posent, on a surtout évoqué le problème médical. N'y revenons pas, c'est clair. Il faut évoquer aussi, il faut mentionner simplement, je n'ai pas le temps de l'évoquer, le problème de l'habitat. Il fallait les mettre où, les gens? Alors, il y avait deux possibilités. Soit raser le centre où tout s'était effondré, mais dans ce qui s'était effondré, il y avait les cadavres. Soit respecter la décence qu'il y a à ne pas heurter les familles en déblayant, et dans ce cas-là, construire ailleurs. On a construit ailleurs. à 19 km de Port-au-Prince. Mais à 19 km de Port-au-Prince, il n'y a pas d'eau. À 19 km de Port-au-Prince, il n'y a pas de travail. Et donc on a respecté une priorité qui était celle de traiter avec décence la question des cadavres et la question des familles ayant effectivement de leurs proches sous les décombres. Mais il y avait une autre urgence qui était de permettre aux gens d'habiter dans des endroits leur permettant de survivre et de vivre. Ça n'a pas été le cas. Dans les logements construits dans l'urgence en Haïti, qui étaient prévus pour 20 000 personnes et auxquels on a donné le nom de Canaan, vous imaginez, Canaan, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de travail, et ils sont aujourd'hui 200 000. Donc la réponse à l'urgence a été manquée.
Oui, mais là, Magali Besson nous fait l'objection, disant, mais est-ce que ça relève du philosophe de s'occuper de ces choses-là? C'est le médecin qui ampute, c'est pas le philosophe, c'est au philosophe de savoir où reloger les sans-abri à ce moment-là.
Non, pas du tout, c'est le contraire, ce que je veux dire. C'est évidemment ni au philosophe de savoir ce qu'il faut faire médicalement, ni ce qu'il faut faire architecturalement pour le logement. Mais c'est au philosophe, éventuellement, si on le lui demande ou s'il veut prendre la parole, de poser cette question des priorités et d'essayer de donner des paramètres ou des critères pour pouvoir y répondre de façon défendable. Cas par cas et situation par situation. Mais notre question aujourd'hui ne peut plus être celle des principes de justice. C'est néanmoins une déclinaison de l'exigence de justice qui est aussi vieille que la philosophie elle-même, confère Platon que j'évoquais tout à l'heure. Mais la déclinaison, c'est pour moi la question de savoir ce qui est justement prioritaire. Quelles sont les priorités justes? Et nous pouvons éclairer ça par référence à des paramètres. J'en ai mentionné trois tout à l'heure. Survie, vie décente, qualité de vie. On peut aussi en mentionner d'autres. Et de savoir ce que signifient ces concepts. Et puis, dernièrement, dernier point, par rapport à la situation actuelle...
Bien dans le micro, je suis désolé, sinon...
Par rapport, pardon, mais c'est contre-intuitif de parler dans un objet comme ça et de ne pas parler comme ça. Dans un état d'urgence comme le nôtre, je repose la question, qu'est-ce qui revient aux philosophes, qu'est-ce qui revient aux autres? C'est pas aux philosophes de régler les questions politico-militaires. Il peut juste être attentif, comme on l'a dit, à ce que l'état d'urgence ne détruise pas l'état de droit. D'accord, mais il n'est pas le seul à pouvoir faire ça. Les politiques aussi, etc. Les juristes aussi, pas de problème. En revanche, il peut apporter une compréhension de l'état d'urgence et faire apparaître que dans cette situation d'urgence, il y a des choses à comprendre. Alors ça peut être variable selon les philosophes qui veulent s'impliquer là-dedans. Moi, ce dans quoi je m'implique, c'est à essayer, pour l'instant, de rendre intelligible, donc de comprendre ce qui fait que c'est en France, qu'il y a de plus de jeunes gens qui partent en Syrie ou ailleurs, s'apprêter à faire le djihad, pourquoi est-ce en France? Quel schéma d'intelligibilité peut-on produire par rapport à cela? Et là, nous pouvons apporter un certain nombre de réflexions qu'il nous faut apporter d'ailleurs, qui vont mobiliser des choses parfois très très pointues. Pour évoquer une dernière fois le cas de Haïti, après avoir posé les grandes questions de santé, de logement, le débat s'est concentré, par exemple, en raison des violences sexuelles qui intervenaient dans les camps, que vous imaginez, promiscuité, etc. Savoir quelle doit être l'épaisseur des toiles de tente pour que les femmes puissent ne pas être exposées au regard des hommes le soir, à la lumière des feux permettant de cuire le peu qu'il y avait à cuire. Et le philosophe peut là-dessus intervenir sur cette question des violences sexuées qui accompagne étrangement presque toujours ou toujours les massacres, les génocides, car ce sont aussi ce que nous vivons est un processus génocidaire, savoir comment s'orienter dans les priorités au sein de ces relations entre pauvreté, appauvrissement, blessures, mort, logement, atteinte sexuelle, etc.
Frédéric Worms ?
Oui, je voulais dire un mot. Je suis très heureux de voir Alain Renaud découvrir ou revenir aux urgences vitales. C'est un signe pour moi que tout le monde aujourd'hui revient à ses expériences à tous les niveaux, la maladie, la catastrophe, la guerre, le climat, etc. Mais un peu à front renversé, je voudrais souligner, moi qui travaille sur la philosophie de la vie, de la catastrophe justement, et tout ça, et du soin, je voudrais souligner que tout ce que vous venez de dire implique évidemment des questions de justice et des questions de principe. Et quand vous dites la juste priorité, c'est évidemment des questions de principe. Et je pense même que cette question de l'urgence vitale, qui aboutit nécessairement à des contradictions et à des déchirements...
Attendez, les principes, non, je vous dis juste, non, les juste principes, on les a.
Mais non, on les a pas tant que ça. Parce que justement, la question, c'est à la fois il y a une concurrence des principes. Moi, j'ai fait partie d'une commission sur la grippe aviaire au ministère de la Santé. La question, c'est évidemment, est-ce qu'il faut être utilitariste, c'est-à-dire prioriser les vies, ou bien est-ce que toutes les vies sont absolument digne d'être sauvée. Est-ce que pour une vie, il faut détruire la planète, comme dit Ivan Karamazov, hein, pour sauver la vie d'un innocent, ou bien est-ce qu'il faut, au fond, avoir un calcul d'utilité? Les deux sont des principes de justice, donc il faut trancher. Et il y a une deuxième réflexion, et je pense qu'Alain Renaud ne me démentira pas, c'est que le propre des théories de la justice sur lesquelles Alain Renaud a beaucoup travaillé, c'est de faire un cran en arrière. Et non pas tellement sur le contenu du principe, mais sur la manière de discuter des principes. La légalité du processus, la procédure de discussion, la démocratie, au fond, est juste, non pas telle ou telle chose, mais selon la manière dont on l'a décidé dans une démocratie. Et je crois que c'est extrêmement important aujourd'hui. On sort d'une conférence, la COP21, etc. Il y a une urgence climatique. Mais en même temps, il y a une urgence démocratique, que tout le monde participe à la discussion. Et donc, moi, je pense que... encore une fois, je suis très heureux de voir Alain Renaud, qui a beaucoup travaillé sur ses théories procédurales, sur la démocratie, revenir aux contenus vitaux. Mais, inversement, il ne faut pas sacrifier l'un pour l'autre.
C'est la question de la compatibilité entre ces deux...
Mais c'est la vie humaine.
La fonction du philosophe, le chercheur d'un côté...
Le propre de la vie humaine, c'est d'être déchiré, je pense, et d'être constamment déchiré entre plusieurs urgences. Si on prend les conflits qui peuvent agiter même une famille, hein, sur ce qui est premier dans la fin de vie, est-ce que c'est maintenir la vie ou est-ce que c'est respecter la liberté? Eh bien, c'est une contradiction entre deux urgences. Et je crois qu'effectivement, donc on ne se passe pas de philosophie, et il ne faut pas pour autant... Moi, je crois que... Non, mais je sais que vous n'avez pas dit ça, au contraire. Mais
Alain Renaud proteste dans sa barbe.
Mais bien sûr, Alain Renaud n'a jamais dit ça, mais je pense qu'en redécouvrant l'urgence, on redécouvre aussi l'urgence de la philosophie, c'est-à-dire la discussion sur les principes et même sur les procédures. Il ne faut pas non plus renoncer aux institutions démocratiques, aux institutions de réflexion. On est calmement dans un amphithéâtre, on sait qu'il y a de l'urgence dehors. Mais aménager ce temps dans un espace public, permettre à des institutions cette discussion à la fois intense et paisible, bien, ça fait partie du travail. Et donc, il faut
l'urgence est plus davantage présente que vous ne le pensez. Il nous reste 2 minutes.
Exactement. Ce qui manque en Haïti, c'est aussi des institutions et un État.
Un dernier mot, Magali Bessane, avant de passer la parole au public.
Oui, très rapidement. En effet, je pense que la grande difficulté, c'est d'arriver à avoir les principes qui se formulent en même temps que ce réel qu'ils sont censés essayer de rendre intelligible. Et en effet, la question des principes, elle n'est pas résolue. On n'a pas trouvé les grands principes. Il y a la justice utilitariste, il y a la justice déontique, il y a la justice des vertus, il y a des tas de principes qui s'affrontent. Il y a une concurrence des principes de justice. Et quand vous disiez tout à l'heure une vie décente, une qualité de vie, on connaît les théories des capacités qui posent un certain nombre de questions sur ce que pourrait être une vie décente, des droits politiques, des droits économiques, la capacité à avoir accès aux soins, etc. Comment en effet rendre à la fois efficace et utile ces différentes exigences? C'est là aussi que le rôle de la philosophie s'effectue.
Et puisque nous sommes accueillis aujourd'hui dans ce bel amphithéâtre de la Sorbonne, j'ai le plaisir à annoncer un ouvrage écrit à 8 mains, dont 2 d'entre elles sont les vôtres, Alain Renaud. Les 6 autres sont présentes dans la salle, je crois, avec le corps derrière, mais je les ai pas identifiées. Publié par les presses universitaires Paris-Sorbonne, il s'agit de Inégalité entre globalisation et particularisation. Merci à vous 3 d'être venus participer à ce débat, et merci à vous, cher public très nombreux, d'être restés jusqu'au bout. La parole est à vous, le temps de 2-3 questions, ça dépend de la taille de vos questions et de la durée des réponses. Moi je vois une main ici.
Merci. Dans l'urgence, est-ce que le rôle de la philosophie et des philosophes consiste à penser à la souffrance de ceux qui subissent les événements ou d'expliquer, voire de justifier ceux qui sont coupables de l'événement?
Frédéric Worms?
Il y a un piège dans votre question, bien sûr. Hein. Il y a un piège dans votre question parce que je pense que le philosophe, comme tout le monde, ne met pas sur le même plan la victime et le coupable. Hein. Et le propre d'un acte criminel, c'est qu'on le qualifie comme tel immédiatement. Il n'y a pas seulement une souffrance physique, il y a une injustice morale et une destruction en plus. En cercle, hein. Il y a quelqu'un qui a été assassiné, des proches qui souffrent, des institutions qui ont été violées, etc. Et même, on peut dire, des actes de violence extrême. Et d'un côté, il y a ceux qui les ont commis et il faut les juger et les condamner. Mais quand vous dites penser à la souffrance d'un côté, c'est pas seulement... c'est vraiment accompagner, soutenir, créer les institutions politiques qui soutiennent et qui empêchent que ça se revienne. Et condamner n'empêche pas d'essayer de comprendre les mécanismes qui ont pu y conduire, comme ça a été dit, ici et maintenant. Qu'est-ce qui fait que c'est possible? Qu'est-ce qui fait que cette violence a surgi? Donc je crois que le piège de votre question, ce serait de dire que la pensée exclut le jugement ferme, le partage dans certains actes entre ceux qui les ont commis et ceux qui les ont subis. Ça commence par l'indignation et ce jugement. Et je ne crois pas du tout que la philosophie puisse faire disparaître. Au contraire, elle permet de justifier justement ce sentiment de l'injustifiable qu'on a devant ces actes.
Alain Renaud, vous souhaitiez répondre également?
Oui, il est bien clair que le philosophe, au nom de sa vieille interrogation qui reste malheureusement d'une éternelle actualité pour le coup, même dans l'urgence, sur le mal et sur la responsabilité, sur le mal subi et le mal commis, le philosophe évidemment, par rapport aux séquences d'urgence, soit catastrophe naturelle, soit génocide, massacre de masse, etc., est évidemment présent avec ces questions-là. Et sa pensée consiste, pour reprendre la vieille formule de Kant et d'Anna Arendt, consiste à juger. Penser, c'est juger. C'est-à-dire, comment les gens deviennent-ils, comment des acteurs apparemment ordinaires deviennent-ils les monstres qu'il faut juger? Donc là, il n'y a aucun problème pour inscrire la réflexion du philosophe sur l'intelligibilité de ces situations comme incluant un projet d'intelligibilité du mal commis comme du mal subi. Actuellement, je travaille sur les situations génocidaires et notamment sur l'éclairage qui apporte les mises en images cinématographiques qui en sont faites. Donc il n'y a pas du tout de difficulté à intégrer votre demande. Évidemment, elle est au cœur des grandes contributions qui ont été et qui restent celles de la philosophie sur les situations extrêmes ou les situations d'urgence. Il n'y a aucun problème.
Y a-t-il une autre question ?
Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement les Français se sont révélés très, très philosophes dans l'urgence après les événements de cette année, le 11 janvier et également en novembre, est-ce qu'en réaffirmant des valeurs philosophiques très clairement sur des pancartes, liberté, égalité, liberté d'expression, tolérance, est-ce que vous ne pensez pas que d'une certaine façon ce peuple s'est révélé quelque peu philosophe à l'occasion de ces événements dramatiques?
Vous allez tous dire oui, dit Alain Renaud. Mais alors Magali Nelson commence par dire oui.
Non, en effet, c'est la réaffirmation des valeurs qui sont celles de la République et la réaffirmation de grands principes auxquels nous tenons tous, c'est une manière, en effet, de, comme vous dites, de révéler ou de dévoiler ce que peut-être nous avions eu tendance à oublier, qui est une manière que nous avons tous d'être philosophes. Mais on rejoint ce que disait tout à l'heure Frédéric Worms. De ce point de vue, nous sommes tous philosophes, et ça c'est fondamental. Après il y a les philosophes de métier, mais le scandale, l'indignation, la réaffirmation des grandes valeurs, etc., ça fait partie de ce à partir de quoi nous philosophons tous ensemble.
Peut-être je peux prolonger d'un mot.
Bien sûr.
Ce que je trouve très beau dans la manière dont vous posez la question, c'est qu'il y a deux sens du mot philosophe que vous utilisez, c'est-à-dire il y a l'affirmation des principes philosophiques, qui sont affectés par l'événement et qui surgissent. On se dit, bah oui, mais non, on va réagir comme ça. C'est ça qui a été atteint. Et puis, il y a le sens un peu de la philosophie antique, c'est-à-dire on est philosophe quand on supporte la souffrance aussi, quand on ne se laisse pas détruire et quand on résiste avec ses principes. Et quand on dit du stage stoïcien, bon, c'est un vrai philosophe, il a subi la souffrance sans se laisser affecter. Les stoïciens disaient qu'aucune épreuve extérieure n'est un mal pour nous parce que nous pouvons contrôler toujours nos représentations. C'est ça la philosophie antique. Aujourd'hui, je pense qu'avec les épreuves historiques et avec aussi les nouvelles conceptions de la subjectivité, nous savons que nous sommes plus vulnérables que ça et que nous pouvons être détruits psychiquement par l'événement et politiquement. Que les principes, nous pouvons en effet les perdre, les oublier. Tout nous le montre. Et la sagesse antique était un peu optimiste. C'est-à-dire qu'il pensait que même, vous savez, sous la torture, le philosophe reste philosophe en ce sens. Mais je trouve qu'il y a encore plus de mérite, en effet, à rester philosophe en ce deuxième sens existentiel, éthique, et même pour une communauté politique, quand on sait que c'est fragile. Et je crois qu'effectivement, dire liberté, égalité, fraternité aujourd'hui, c'est pas seulement dire c'est immuable, éternel, ce qui est vrai, mais c'est aussi fragile. Et donc le maintenir, c'est aussi faire preuve d'un certain courage calme, tranquille, mais quand même très très déterminé. On sait maintenant que c'est aussi la vulnérable, et donc ces principes sont bizarrement à la fois invulnérables et très vulnérables.
Merci à tous les trois.
Merci à tous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude. On se retrouve demain pour la diffusion du second débat enregistré samedi 30 janvier dernier dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Demain, je recevrai les philosophes Cynthia Fleury, Pierre Rosanvallon et l'historien Olivier Dard pour réfléchir aux nouvelles problématiques liées à la représentation en partant d'une question : la démocratie nous représente-t-elle encore ?